Oui, oui, c'est vrai, vous avez raison. Vous avez absolument raison.
Il y a aussi des notions, je ne dis pas que ce soit aussi fort que bien sûr, que dans l'esprit biblique, mais il y a aussi quand même la notion de vertu, de morale dans le bouddhisme.
Écoutez, tout ceci mérite, vous avez raison, mais tout ceci mérite à être étudié et bien distingué. J'ai longuement parlé avec des bouddhistes zen, j'ai aussi parlé avec des shintoïstes. Je dois vous dire que dans mon expérience personnelle, elle est très limitée de ce monde-là, mais elle existe quand même. Je suis très proche, familier, c'est ni proche ni familier, par le bouddhisme, okay, qui me semble, de tout cet éventail de spiritualité extra-orientale, le plus compatible, sinon proche, avec le judaïsme. Mais c'est une religion sans Dieu, le bouddhisme, et sans rire, malgré tout. Attendez, je n'ai pas fini. En particulier, je me souviens dans un colloque d'un dignitaire zen, je ne sais plus comment il s'appelle, les Talapoins, je ne crois pas que ce soit eux, et qui dialoguait avec un ecclésiastique chrétien, orthodoxe d'ailleurs, qui se prenait très au sérieux. Et lequel ecclésiastique, je ne dirais pas de nom, racontait une histoire pour mettre le zéniste, je ne sais pas comment on dit, le zéniste, en boîte. Il disait que la doctrine zen a monté des montagnes escarpées et essoufflé, arrivant au fait, trouve un jésuite installé sur le fait. Alors le zéniste, je ne sais pas comment on dit, lui a répondu, mais il y a plus haut que le fait. Et quand le jésuite est enfin arrivé là-haut, il a trouvé un bouddhiste zen. Et évidemment, ça ne manque pas d'humour non plus, mais c'est un humour diabolique. Et j'en dirai pas plus. Il y a sept sortes de rires qui entourent la naissance d'Isaac. C'est un de ces rires-là. Mais ce n'est pas celui ni d'Isaac, ni d'Abraham, ni de Sarah. Bien. N'oubliez pas, nous avons une deuxième question à droite. Alors, on finit rapidement. Oui, c'est d'abord monsieur, ensuite. Oui, oui.
C'est un prolongement de ce que vous avez dit là. C'est-à-dire, mais je crois qu'on est à plusieurs à souhaiter que la notion de Shlemut et de cette notion de Hod, qui a fait allusion, quand la créature qui accède à la créativité, c'est quand même dès le moment où il y a le sujet, il arrive un moment où ça rentre dans les mondes tellement généraux qu'on n'arrive plus tellement à voir comment dans l'histoire vécue, comment cette notion de créativité pour l'homme, cette accession à ce niveau-là, ça se fait. Ça peut se faire d'abord, je pense, au niveau de créer d'autres hommes.
D'autres mondes, oui.
D'autres mondes, d'autres personnes, enfin, des enfants et autres, et créations
artistiques.
Alors, ouais, la question, est-ce que ça fait partie
Alors, écoutez, c'est un...
C'est implicite dans le discours, mais...
Oui.
C'est intéressant de savoir si c'est vraiment exprimé.
Oui. Exprimable. Ah bien sûr, tout créateur crée d'abord mal avant que ça s'arrange, si je dis. Et les artistes le savent. Mais la question que Roland a posée est très vaste, c'est le sujet de plusieurs séminaires. Et si j'ose dire, il n'y a qu'un kabbaliste qui serait aussi un artiste, qui serait capable de le diriger. J'espère que je suis un petit peu, mais pas suffisamment pour aborder ce problème, sinon en termes généraux. Et en tout cas, dans ce séminaire-là, où il s'agit de vocabulaire, ça ne pouvait être qu'allusif. Mais je vais répondre très rapidement sur le vocabulaire, en tout cas. Shlemut, hein, perfection, comme on traduit. Vous savez, j'ai l'habitude de dire que ce mot de perfection est blasphématoire dans le vocabulaire traditionnel juif. Lorsqu'il est pris dans son sens étymologique, originel, je vais le traiter en latin, si vous voulez, puisqu'il a la forme latine, ce qui est fait complètement, achevé, fini, mort, impur. Et donc, nous véhiculons ce vocabulaire-là. Et puisque les Juifs parlent français, ils parlent de perfection lorsqu'ils veulent traduire Shlemut. Mais Shlemut, c'est différent. Ce serait plutôt plénitude. Mais plénitude toujours en halicha halacha, en marche. Parce que tout ce qui est figé, j'ai dit la réponse à la question, tout ce qui est parfait dans ce sens étymologique est figé. Il y a une phrase du Maharal, je n'ai pas en tête dans quel livre, mais ça doit être dans Netzar Israël ou Gvurot Hashem, qui dit, là où la perfection dans le sens Esaü, Edom, Shalem, s'installe, le Satan danse. J'ai bien dit le Satan. Satan, ça n'existe pas, Monsieur Satan, mais le Satan. Et ce qui serait encore un autre séminaire. Alors, il faut bien faire attention à cela. Lorsque des synagogues commencent à ressembler à des temples, pour ne pas dire autre chose, c'est que le Satan s'y est installé. Et il s'habille en talet et tefilin. Et les Juifs n'aiment pas ça. Et surtout pas le Maharal, d'ailleurs. Et donc, il faudrait substituer plénitude dans le sens simple, direct et plein, si j'ose dire, de ce terme, à perfection. Maintenant, la Sphira de Hod et toute la question de créativité, tout ce que je peux vous signaler, c'est que la figure de la Sphira de Hod dans le récit biblique, c'est Aaron à Kohen, le grand prêtre à Aaron. Et tout ce qui concerne la splendeur et donc cette direction de créature devenant créateur mais lui font encore la plénitude de Yesod et de Malchut pour y arriver passe par la sainteté du prêtre comme tel. Et vous savez sans doute que dans beaucoup de sociétés primitives, ça me revient à mes études d'ethnologie, l'art a commencé par être médical et l'art était thérapeutique et c'était les prêtres qui s'en occupaient. Et on dessinait sur le sable, par exemple, avec des sables de couleur, des dessins extrêmement beaux, comme on dira plus tard en esthétique, dans lesquels on faisait faire un cheminement de l'esprit du malade pour le guérir, mais c'est les prêtres qui s'en occupaient. C'était la prérogative des prêtres. Par la suite, c'est devenu l'art distingué de sa source unique des différentes valeurs. Un exemple, entre autres, qui me revient de mes souvenirs d'études. Et je pense que ça mérite d'être le sujet d'un séminaire pour lui-même. Mais encore une fois, il faudrait avoir ces deux compétences au moins à la fois, et le vocabulaire de la Kabbalah, et la capacité de l'artiste. Sinon, on peut être allusif, bien évidemment. Voilà, vous avez encore une question, très rapidement toi aussi, et donc maintenant la deuxième.
Pensez à la phrase « Dieu a créé l'homme à son image ». Et puis là, je m'approche ça au fait d'acquérir le mérite de devenir... en quelque sorte une alphine pour retransmettre les valeurs morales, est-ce que ça n'est pas aussi un début de façon de commencer à être à l'image de Dieu?
C'est très bien comme interprétation. C'est-à-dire, dans tous les cas, je vais revenir sur la proposition de traduction par laquelle vous avez commencé, que Dieu a créé l'homme à son image. C'est faux en hébreu, mais à la fin, c'est une très bonne interprétation. C'est-à-dire, plus que la manière dont les théologiens, philosophes et... ils sont grands, Maïmonide en particulier, Sadia Gaon avant lui, avait indiqué que l'image de Dieu ne peut être pensée qu'au niveau de la pensée. Je crois qu'il y a là une indication extrêmement féconde, et qui se branche sur le texte que nous avons lu, bien entendu. Mais vous avez compris. Mais je reviens à la proposition de départ. Il n'est pas du tout écrit en hébreu que Dieu a créé l'homme à son image, dans le sens habituel du mot image. Sinon, de cette manière. Je vous invite à lire un des chapitres du Nefesh Chaim du Rav Chaim de Volodjin qui va bientôt paraître en français sur une traduction de Benogros et c'est le premier chapitre d'ailleurs. C'est une traduction, je ne l'ai pas encore lu, vous l'avez déjà entre les mains?
Il n'est pas sorti.
Mais avec Benogros on peut être assuré que la traduction est exacte. Ça reste une traduction mais qu'elle est exacte. Il a travaillé des années là-dessus. Que M. Levinas a d'ailleurs beaucoup lu et beaucoup cité. Et où, dans le premier chapitre, en particulier, le Rav Chaim de Volodjin explique que « Betzelem Elohim », c'est à l'image de Dieu créateur. Et non, il n'y a pas « Betzelem Hashem ». Et par conséquent, il faut se méfier avec la traduction du mot « Dieu ». J'interprète le Rav Chaim que je cite. Et il dit « Elohim », ça veut dire « Baal kolakohot kulam », dans le sens de « Boré ». Le maître de toutes les forces à la fois, dans le sens de créateur. Et effectivement, alors que pour le prophète, il est dit « Utmunat Hashem Yabit ». Il y a tout dans Hachem, mais non pas Betzelem Hachem. Alors j'ai proposé, et j'ai retrouvé cela, j'ai proposé il y a très longtemps dans des séminaires, et j'ai retrouvé cela dans beaucoup de publications, bien sûr sans citation, qu'au mot de image, dans le sens de dessin, yen, il faudrait substituer le mot de dessin, e-yen, c'est-à-dire le projet. Bon, ça fait partie maintenant de la culture anonyme universelle. Donc je me cite plus. Et c'est dans ce sens que le Raphaël va expliquer kabbalistiquement d'ailleurs, très attentivement, le tzadé de Tselem, le lama de Tselem et le même de Tselem. Okay. En tout cas, vous vivez dans un temps privilégié, où vous avez non seulement ces livres, mais en français, alors que de notre temps, ils n'existaient même pas en imprimerie.
Ça apparaît dans la collection Les Dix Paroles de
Mopsi. D'accord. Qui, avec beaucoup d'imprudence inconsciente, est en train de jeter dans le champ de la culture universelle des choses qui étaient cachées depuis le commencement des mondes. Mais c'est notre temps. Bien. Alors, attendez. Oui, oui. Et puis c'est fini pour cette question et ensuite nous reprenons la deuxième.
Okay. Deux aspects. D'abord, je n'ai pas très bien compris comment les...
Attends, c'est une autre question. Mais nous reprenons celle de monsieur avant. Et vous, monsieur. Ah non, ça c'est en... Oui, oui. Oh, oui, en yiddish. Oui, mais je vous écoute. Quelle est votre question?
Alors, je veux dire que le christianisme se base sur cette croix qui est crucifiée. Or, l'origine de Tselem, c'est l'image.
L'image, c'est même dire l'image. Mais pas dans le sens de « il y a un modèle et on copie ». Parce que aujourd'hui, vous avez, pour dire photographe, on dit tsalam. On ne peut pas dire que l'homme est une photographie de Dieu. Bien sûr, à la limite d'une direction de pensée anthropomorphique qui serait lucide, on pourrait à la limite dire cela, que lorsque Dieu se regarderait dans un visage, il voit, dans un miroir, il voit le visage de l'homme. Mais quel homme ? Et sûrement pas cet homme-là en latin. Évidemment pas. Mais, je vais vous dire une blague d'ailleurs. Vous savez que dans les mariages, le rabbin est toujours gêné par les photographes. J'ai remarqué ça. C'est épouvantable d'ailleurs. Et je parle pour les rabbins. Et alors, dans le Sheva Brachot, on dit qu'Ibet Tselem bara et Adam. Il faudrait dire qu'Ibet Salam Elohim bara et Adam. C'est avec un photographe divin, il a créé. Genre. Tout cela n'est pas faux d'ailleurs. Et voilà, en tout cas, pour cette question, je vous rends la parole, et ensuite vous aurez pour la deuxième question.
C'est la question donc, du passage au monde à venir.
Oui.
Avec la modification qui est sous-entendue, et qui rendrait donc au monde à l'unité.
Qui rendrait donc le monde du créé à l'unité, et le rendrait divin, oui. Et votre question était, qu'est-ce que devient le libre-arbitre,
si c'est ça, pardon,
oui. Et je crois que j'en ai quand même dit l'essentiel, mais je voudrais reprendre ça, c'est important. Il faut bien comprendre que lorsque nous disons liberté, il y a au moins deux niveaux. La liberté de choix entre le mal et le bien, et c'est ce que nous appelons le libre arbitre, liberté de choix, qui se dit en hébreu « behira », choisir entre et entre. Eh bien, si on y prête bien attention, cette liberté est elle-même conditionnée. Elle est conditionnée par les choix qu'il y a à faire. Et nous ne pouvons choisir finalement qu'entre un mal et un moins mal, qu'entre un bien et un moins bien, qu'entre le mal et le bien. Mais ce que j'ajoutais, c'est que c'est cela qui nous permet de faire le mal, le fait d'avoir la liberté de choix entre le bien et le mal. Et le tzaddik, comme je disais, le juste, n'a qu'un seul souci et exigence, c'est d'arriver au-delà, de perdre cette liberté de choisir entre le bien et le mal, afin de ne pas choisir le mal. Mais ça ne signifie pas qu'il démissionne de sa condition d'homme. Au contraire, il arrive à ce niveau dont nous parlions tout à l'heure avec Amida de Hod et de Créateur, il arrive à la sainteté, il arrive à la deuxième liberté plus haut qui s'appelle Chofesh, et qui est liberté du Créateur. Je sais que c'est difficile de maîtriser ces concepts, mais réfléchissez-y par vous-même. J'ai l'habitude de donner un peu sous forme d'anecdote l'illustration suivante. C'est sur les deux sens du mot pouvoir. Est-ce que je peux allumer l'électricité le samedi? Bien sûr, tu peux. Mais est-ce que tu dois? Est-ce que tu peux dans le sens de devoir? Je crois qu'en anglais, il y a deux termes différents pour dire pouvoir. et qui indique bien cette distinction de sens. Vous allez m'aider à les retrouver, c'est mais et canne. Bon, un des deux veut dire, pas la canne, mais un des deux veut dire pouvoir physique. Bien sûr, tu peux, c'est rien d'allumer ces sites. Et l'autre veut dire le pouvoir moral, tu ne peux pas. Est-ce que c'est clair? Et je donne l'illustration suivante, c'est que le tzaddik ne peut plus faire ce que nous appelons les averot, les transgressions, les mal. Un tzaddik ne peut pas lever le bouton, le Shabbat, peut pas. Et alors qu'il peut le jour de la semaine. Et c'est la récompense du tzaddik. C'est-à-dire qu'il ne peut plus faire ce qui est interdit de faire. Alors, on ne peut plus, si j'ose dire, même dire qu'il en a un mérite au niveau des actes, il a dépassé cela, il a un mérite d'être qui fait qu'il est au-delà de la Bechira dans ce sens-là, du livre 8 dans ce sens-là. C'est aussi la récompense du Baal Tshuva. Mais un Baal Tshuva, ce n'est pas celui qui est passé d'un extrême à l'autre, c'est quand il est arrivé au milieu. C'est pas celui qui fait trop. Faire trop, c'est aussi grave que faire moins. Bon, j'ai pas le droit de dire ça, mais vous avez compris ce que je veux dire. Et de toute façon, les Baal Tshuva sont en convalescence, jusqu'au moment où il faut jamais mettre en question quelqu'un qui est en convalescence. Mais il y a des maisons de convalescence, même si on les appelle des yeshivot. Mais il faut savoir ce que c'est. Alors je disais par exemple, est-ce que vous voyez un Rosh Yeshiva entrer au cabaret à Pigalle? Il ne peut pas. Il rentrerait en 5 ans. Voilà, c'est dans ce sens-là que c'est au-delà de la Bechira. Bien, je crois que c'est maintenant clair. Et donc, je n'ai pas fini, une minute. Et donc, il est évident que, au Olam Haba, ça nous est dit en clair dans les textes exotériques, donc je peux le répéter. Dans le Olam Haba, il n'y a plus Bechira entre Mitzvah et Avera. On a dépassé l'épreuve, le test. Et c'est pourquoi on dit que non, j'ajoute pas, et je vous donne la parole.
Il y a seulement le mot qui correspond à liberté, l'autre mot.
Chofesh.
Et l'autre.
Bechira. Chérout, c'est comme chofesh. Aussi chérout. Mais distinguer un peu avec le sens de l'hébreu moderne. Chérout, c'est pas forcément un parti politique.
Quel?
Ah oui, voilà, le langage de la Kabbalah parle de deux sortes de sphirot, les sphirot sphériques et goulim, c'est la nature. Et les sphirot droites, c'est or, le cave, c'est la morale. C'est ce que nous avons appris avec ce texte, reprenons depuis le début. Ah oui, oui, et le Réchimou est enfoui dans les kelim des égoulim, invisible, mais très fort, puisqu'il est de l'être antérieur et il travaille. C'est ce qu'on appelle aussi, très bas dans le vocabulaire, et c'est entré dans l'hébreu moderne, Moussar Klayot, la morale des reins. Vous connaissez cette expression, Moussar Klayot. C'est-à-dire, dans les reins, il y a peut-être plus de lumière que dans les yeux, je ne sais pas comment dire. Et il s'agit de ce qu'on appelle en général la morale naturelle qui ne laisse pas tranquille, même l'être de nature, lorsqu'il a fait une faute. Moussar Klayot. Oui, une minute alors. Et attendez, je vais interrompre pour monsieur qui s'impatiente. Quel
c'est ce que tu appelles cette morale dans ces ce que tu appelles la nature, il y a des traces de lumière. Est-ce que c'est traces? Parce que dans toute vie, il faut revenir à un langage plus scientifique. Parce que dans toute vie, il y a de la lumière, sinon ça ne marcherait pas, ça ne serait pas vivant, quoi. C'est-à-dire que même la matière, si tu veux, en quelque sorte, même l'animal, dans ses sens.
Même la matière, tout simplement.
Bon, il y a de la lumière, sinon ça
ne
vivrait pas.
Oui, c'est dans ce sens-là. Ça peut se rattacher au thème du Réchimou, et il y a un très beau poème de Monflègue là-dessus. Je ne sais plus dans quel lieu, dans Écoute Israël peut-être. Tu dois avoir ça dans ta bibliothèque et tu peux retrouver ça. Et dans un des prospectus des AI, quelle année? Il y a 30 ans, 40 ans, je ne sais pas. Tu dois avoir ça dans tes archives. On a même photographié le manuscrit de Monflègue, qui va dans ce sens. Bien. Et vous?
Deux aspects de l'offre. La première chose que nous comprenons bien, c'est comment la lumière, par ses traces, en repartant,
oui, j'étais très furtif, et je vais le rester d'ailleurs. Et
le deuxième aspect, c'est qu'il y a or avec Aïn aussi, qui se trouve, et par rapport à la conférence.
Est-ce que j'ai dit ça? Non. Tu as pensé en même temps que tu écoutais. C'est toi qui l'as pensé, je ne l'ai pas dit, mais je ne suis pas faux. Hein. Je reviendrai. Au sujet de ta première question, je vous en prie, je vais vous citer un des midrashim important que les kabbalistes utilisent souvent, et qui nous dit qu'Abraham avait deux maîtres qui lui enseignaient ce qu'il fallait savoir, et que c'était ses reins. Vous avez dû lire ce midrash, je suppose. Qu'Abraham avait deux rabbanim qui étaient ses klayot eux-mêmes. C'est donc rattaché au Moussa klayot. Au sujet de Or et de Or, mais c'est un thème classique du Midrash, et c'est pas faux ce que tu dis, c'est-à-dire que la faute nous fait descendre à un niveau inférieur à la lumière du chaos à l'origine. Et notre peau est une sorte de trace de cela. Vous savez qu'au moment de la Havdalah, le samedi soir, on regarde les ongles. Du point de vue exotérique, on explique, et ce n'est pas faux, qu'on regarde la différence entre l'ombre qui est faite par les doigts et la lumière à côté. Les Avdil ben Kodesh lechol, ben Or la Rocher. En fait, on regarde les ongles qui sont les seules ouvertures de la peau derrière lesquelles la lumière de la peau originelle, si je veux dire transparente, se devine. D'où Adam, Adam, que le premier homme était rouge, par transparence du sang derrière la peau transparente. Et donc, Rabbi Meir a expliqué dans le Midrash que ce or de la lumière, Aleph, est devenu or de la peau, Aïn. C'est la différence dans le langage mathématique kabbaliste entre l'unité et la multiplicité. Aleph désignant toujours l'unité et Aïn désignant 70, désignant toujours la multiplicité, c'est-à-dire dans notre problème, l'opacité. C'est cela que tout est dit. C'est ensemble, oui. Bien, c'est l'heure. Oui.
La différence de deux, ça fait Yagon.
Yagon, comment? En gamatria?
Oui.
Ah oui, d'accord.
Quelle tristesse.
Oui, Yagon, plus que tristesse. C'est Yagon. Yagon va en Aha. Bien, alors écoutez, le séminaire est provisoirement clos. Espérons la suite à Jérusalem et à bientôt. Ce soir, la conférence de clôture, qu'est-ce que vous voulez qu'on traite ce soir? Dans l'intitulé.
Ce soir, on va faire la préface avec
vous, Alexis. Ah, c'est vrai, la préface.
Est-ce qu'on peut...